Oui, mais alors pourquoi Saint-Paulino? Parce que regardez, ce que vous dites, c'est que ça, c'est ça, on va dire pour l'expliquer bien à tout le monde, que c'est 1000 plus 200 plus 70 plus 5. D'accord? Et on va écrire ça linéairement, parce que ça, c'est écrit en colonne. Ça, c'est bon pour les Chinois. C'est-à-dire que nous sommes vraiment au-dessus de ça. Nous écrivons, nous, comme nous parlons, et nous parlons comme nous écrivons. Nous sommes des vrais paranoïaques. C'est-à-dire que nous rejetons la différence qu'il y a entre la parole et l'écriture. Vous voyez? Et la lecture qui n'est pas la même dans les deux cas. Il va introduire en disant à des gens de parler, qu'il les écoute et qu'il va soi-disant interpréter, ça c'est un apax au début pour faire. C'est comme pour apprendre à compter, il faut rentrer dans la psychanalyse, alors on a cru que l'analyste il allait interpréter. Bon, ça veut dire quoi qu'il interprète? C'est qu'il va lire. Mais vous voyez, quand on dit à quelqu'un de parler, donc on va lire dans la parole, on va lire quelque chose dans les rêves, il les raconte le patient. Mais c'est vrai qu'il le raconte avec des images. Alors ça ressemble au hiéroglyphe, bon, ou au rébus, voilà. Mais surtout, ce qui est important, ce n'est pas l'interprétation de l'analyste, c'est le fait que l'analyste prétend intéresser le patient à parler pour lire, pour y lire quelque chose. C'est ça le mot interprété. Et puis finalement, c'est plutôt l'analysant qui doit apprendre à lire. L'analyste qui continue, lui, à apprendre à lire aussi. L'analysant, lui, doit apprendre à lire. Freud il a eu l'idée de faire commencer à pratiquer la psychanalyse comme on apprend à pratiquer l'arithmétique avec. Vous voyez, on écrit ça comme ça, on sait pas, on pense pas que c'est comme ça. Ça, on sait ajouter à ça, on sait faire des additions avec des nombres écrits comme ça, on sait faire des multiplications, on sait même faire des divisions. Hein, quand on arrive à l'addition, la soustraction, la multiplication et la division, vous savez, moi j'ai connu ça dans l'éducation nationale. Il y avait cinq étapes. Il fallait juger du degré de maturité de l'élève en fonction de 5 critères. Il savait l'addition, c'était première étape. Soustraction, deuxième. Multiplication, troisième. Division, quatrième. Et puis le cinquième, c'était... Alors là, personne n'arrivait à ce degré qui était absolument divin, hein, qui était l'extraction de racines. Est-ce que vous connaissez l'algorithme pour extraire la racine carrée d'un nombre? Surtout que tous les nombres ne sont pas des carrés parfaits, donc il faut en plus... C'est déjà comme la division, il y a des restes. Bon. Donc, c'est comme ça qu'on fait des barèmes. Alors, voilà, ça s'écrit comment en ligne? Ça s'écrit... On prend seulement le chiffre... On prend le chiffre, c'est 1, que multiplie 10 puissance 3, comme on nous a dit très bien Jacques, non? Possible. Et puis 2, 10 puissance 2. Donc déjà, il faut connaître les puissances, là, ça devient un peu plus compliqué. Plus 7, que multiplie 10, plus 5. Voilà. Ça, c'est l'écriture. Donc quoi? Bien, c'est la base, c'est 10, mais la base, on va l'appeler B. Donc c'est 1 fois B3 plus 2 fois B2 plus 7 fois B. Je n'ai même pas besoin de mettre le multiplier là, entre les deux, je suis grand. C'est écrit juste avec un point, même pas d'ailleurs. Je peux même l'omettre quand j'ai vraiment surmonté la question phallique. Fait que même si le point n'y est pas, c'est comme maman, même si le pénis n'y est pas entre ses jambes, il y est quand même. Vous voyez, c'est dans l'écriture, c'est la version oedipienne, phallique. Et puis, donc, B tout seul, on appelle ça B puissance 1. Et puis 5 fois B puissance 0, parce que j'ai carte un peu montrée ici, vous voyez bien. C'est ça. Vous voyez? Moi, quand j'ai montré ça à des enfants comme prof, je fais gaffe parce que je ne veux pas provoquer des ruptures de semblant parce que ça provoque des délires. Quand vous avez des mômes qui s'aperçoivent qu'ils ont étudié les fonctions polynomiales qui sont x3 plus 2x2 plus 7x plus 5, que ça s'appelle un polynôme, et que c'est l'écriture, que c'est si x vaut 10, c'est l'écriture de 1000. 275, il y en a, ça fait des ruptures de semblant. Hein. C'est comme le petit gars qui voit son instit dans un supermarché le samedi quand il fait les courses avec ses parents. Il s'écarte des parents qui sont en train de remplir le caddie avec la petite sœur, et puis tout à coup, le môme, en se baladant dans les rayons, il est à Mammouth, au champ, du côté de Fontainebleau, et il y a son instit qui va avec sa famille aussi faire les courses. Et tout à coup, il voit son instit qui voit en blouse blanche autrefois ils étaient en blouse grise, maintenant en blouse blanche le dimanche sans la blouse blanche, il est comme son père. Alors il est là, il fonce le gamin, il retourne voir ses parents, il ne peut pas parler. Il dit qu'est-ce qu'il veut leur dire? Vous voyez, c'est ça le transfert, c'est une rupture de semblant. Il veut dire j'ai vu monsieur Duchnock, mon instituteur, c'est monsieur machin, il est en train de faire les courses. Tout le monde s'en fout, mais lui, c'est monumental. Hein. Voilà, c'est ça la rupture de semblant. Et ça ruisselle dans le corps. Dès qu'il y a rupture de semblant, ça ruisselle. Si ça ruisselle pas par des mots, ça ruisselle par de l'écriture. C'est comme ça que vous avez des gens qui font des carrières littéraires grâce à ça. Ça ruisselle d'une manière ou d'une autre. Ça rend malade, ou les liens sociaux autour de vous se défont. Vous avez des types qui sont clochards, on dit ils ont bu, ils boivent après. Quand ils ont eu une rupture de semblant et tout s'est défait, tous les liens se défont et ils se retrouvent sur le trottoir, plus de logement, plus de femmes, plus d'enfants, plus personne ne veut les voir. Alors, c'est pour ça que il n'y a pas que les psychanalystes qui ont peur. Les psychanalystes ont la trouille, ils ont une trouille énorme parce qu'ils ne veulent surtout pas qu'on commence à leur dire ah, mais c'est à cause de vous. Alors du coup, ils ont très très peur, ils sont très convenus et convenables, mais c'est parce que ils savent pas très bien qu'est-ce qui se passe. Alors, ils ont trouvé un mot dans Freud qui les inquiète beaucoup, c'est désintrication des pulsions. Alors là, c'est une technique, hein, désintrication des pulsions. Donc, alors que pas de carrière littéraire, pas de musique, pas de peinture, pas de discours, pas de carrière, rien, s'il n'y a pas de rupture de semblant. Alors, on ne pourrait pas faire grand-chose sans ça. Seulement le problème, c'est que pour pouvoir assumer ou supporter cette rupture de semblant, ce ruissellement de petites lettres, de morceaux de signifiants, de semblants complètes qui s'est déchiré, qui s'est décomposé, la première occurrence de cela dans les écrits de Lacan, ça se trouve dans l'agressivité en psychanalyse. Hein. Thèse numéro 4. Vous allez voir, Lacan, là, il a des formules au début de la thèse numéro 4 qui sont formidables, et puis ensuite, il l'illustre en disant, voilà, il y a des patients qui viennent vous dire, il parle, là, il est psychiatre encore, hein, l'agressivité en psychanalyse, c'est les antécédents de Lacan, c'est avant 53, il dit, il y a des patients qui viennent vous dire, il s'est passé quelque chose, hein. C'est comme un film qui s'est arrêté dans le projecteur du cinéma et ça brûle l'image. L'image a brûlé. Parce qu'autrefois, les images, elles brûlaient quand ça s'arrêtait. Maintenant, ils ont des films qui résistent à la chaleur en Super 8. De toute façon, on fait plus beaucoup de cinéma maintenant, on fait de l'électronique. Bon. Mais à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, si le projecteur de ciné se bloquait, pof, vous voyez l'image qui va fondre. Alors il prenait cet exemple pour dire voilà ce qui se passe. Le film s'arrête et l'image se défait. Et la réalité tombe en flocons. Voilà la première occurrence de ruissellement dans la Lacan. Ça se trouve dans l'agressivité en psychanalyse. Les patients, il a entendu des gens lui dire ça. Et bien Lacan, il est freudien déjà de ce point de vue parce qu'il tient compte du fait que si des gens lui disent que la réalité se barre en flocons, peut-être qu'ils s'y prennent mal, c'est pas bien écrit, c'est tout le problème de la psychopathologie, c'est pas bien écrit, c'est pas bien dit, mais c'est quand même, ils veulent dire quelque chose. Et pourquoi est-ce qu'on les croirait pas? Pourquoi est-ce que nous on croirait qu'on sait tout, parce que nous on n'éprouve pas ça, ou on l'éprouve justement le jour où on s'est bourré la gueule et que l'explication qu'on donne c'est qu'on était ivre. Enfin bon, et d'ailleurs l'addiction et la création ça marche. C'est un moyen de tamponner la bandoulière, de ne pas se rendre compte de ce qui se passe, de se le cacher. Hein. C'est la même chose que la radio, mettre la radio pour ne pas entendre le parasitage dans le corps. C'est la même chose dont la télé. Je vous dis aujourd'hui, c'est le téléphone portable. Même. On se balade avec un téléphone portable, et puis en plus, c'est encore. C'est comme la voiture, on peut montrer aux autres qu'on en a un. Le dernier modèle. Hein, parce que c'est important quand même. On ne peut pas mettre une bonne femme dans son téléphone portable. Dans la voiture, on pouvait mettre une belle pépé en plus, alors ça, c'était vachement bien pour les voisins. Hein, c'est une belle voiture avec une belle femme. C'est comme ça les concours automobiles. On met aussi un chien. Tout ça, c'est dément parce que c'est des tampons, c'est des manières de tamponner. Et Lacan, lui, qu'est-ce qu'il ajoute à ça? Il dit, eh bien écoutez, il y a là un espace tensionnel, hein, qui est structuré d'une manière spéciale. Il dit, il ne s'agit pas simplement du sujet et de l'autre, il s'agit du sujet, de l'objet et de l'autre. C'est un espace tensionnel en étoile. Et il va passer sa vie à construire. Il dit, il doit y avoir un lieu d'écriture et de parole où on doit pouvoir construire cet espace tensionnel en étoile. Et c'est dans les nœuds. Moi, je vous montre comment on... Vous voyez, regardez. Je vous montre là au milieu. Voilà un rapport de ces histoires-là aux nœuds. Vous voyez, si vous avez comme ça un triskel, et que vous inversez ce triskel. Vous avez ce que j'ai appelé, moi, dans mon livre Nœud, le graphe de Terrasson. Si vous avez... Non, ça, c'est le graphe des pleins, voilà. Si vous avez un plein ici, un autre plein ici, vous avez un triangle, n'est-ce pas ? C'est ce que, dans les systèmes dynamiques, on appelle ça le théorème triangle-étoile. C'est Jones, hein, qui, grâce à ça, a formé un des polynômes importants qui a conduit au polynôme de Hondt-Flagg. Et vous avez, si vous faites le mouvement nœud là-dessus, vous voyez que vous allez avoir un des fils qui passe au travers du croisement des deux autres. Voilà. Eh bien, votre triangle, vous voyez, c'est cette zone-là. Cette zone-là, ces zones, elles ont changé. Mais cette zone qui avait deux croisements, il n'y en a plus qu'un. Cette zone, bon. Et puis la zone qui est là, elles sont toujours là. Mais elles ont échangé leur rôle, les zones. Hein? Dans le mouvement. Et là, vous apercevez que votre triangle, il devient une étoile. Et bien ça, c'est ce qui se passe avec les surfaces d'Anton dans les mouvements de Rellermeister et dans le mouvement nœud et dans les Claudiens. Donc, c'est les surfaces qu'on peut tendre dans les nœuds comme dans des bulles de savon qui ont une géométrie. Cette géométrie, elle définit un espace tensionnel, on ne va pas dire en étoile, mais triangle-étoile. Et ça existe dans d'autres systèmes. Les mathématiciens, ils étudient ça pour tout à fait autre chose. Jones, il étudiait ça parce qu'il était spécialiste des systèmes dynamiques. Bon. Donc, vous voyez, que ce soit des gens qui se plaignent d'une rupture de semblant, mais qui parlent avec Lacan, bon, Lacan, il n'a peut-être pas fait tout de suite, il n'est pas un chaman, il les a pas ni soignés ni guéris. Mais quand même, il a consacré sa vie à essayer de faire en sorte qu'un jour, on puisse écrire ce qui se passe quand justement il se passe cette chose qui s'appelle s'apercevoir que le Père Noël, c'est le Père Noël. S'apercevoir que le Père Noël n'existe pas. Hein, et n'oubliez pas que la dernière fois, j'ai mis en relation la psychose sociale avec le Père Noël à propos du vide, justement. Le vide, il commence à jouer un rôle ici. Alors on va avancer plus doucement. Donc voilà pour les polynômes et pour les nœuds. Est-ce que je peux effacer tout ça maintenant? Pour vous donner encore un autre exemple. Je peux effacer tout ce qui est là au milieu où vous avez des questions. Il y a quelque chose qui vous a chiffonné, non? Ça va? Il n'y a pas d'objection. Alors on efface et je vous donne encore un autre exemple. Voilà. Voilà la distributivité. Je vous ai parlé de la distributivité. Eh bien, regardez une loi logique qui est très importante, aussi bien pour le temps logique de Lacan, pour le traité en logique, que pour le S1 signifiant, la flèche, le S1 flèche S2, pour toutes ces choses. Regardez, vous avez une loi logique qui dit que non, et puis pour les énoncés catégoriques d'Aristote, non P implique Q, c'est équivalent à P et non Q. Voilà. Ça, c'est une loi logique. Je mets un signe comme ça. C'est quelque chose de nécessairement vrai. Bon. Qu'est-ce que vous constatez ? C'est ça qui fait qu'on fait beaucoup moins de logique que d'arithmétique, que ça en kikine les matheux. Parce que ça commence à devenir un peu plus problématique que dans les nombres. Dans les nombres, la distributivité, voyez-vous, ça marche bien pour les structures algébriques, numériques, les plus connues. Hein. Vous voyez ? Je distribue le 3 sur le 2 et le 5. J'ajoute 5 et 2 et je multiplie par 3. C'est le même résultat que si je multiplie 2 par 3 et 5 par 3, puis j'ajoute après. Voilà ce que ça veut dire. Et bien, en logique, c'est pareil, il y a le même genre de choses. Mais c'est une distributivité bizarre qui va quand même vraiment faire chier. Et les matheux, ils vont dire. Alors, c'est quand même incroyable ce type-là, vous savez, qui s'appelle Gaston Gilbert Gilles Granger. Il a écrit un livre, c'est Mathématiques et sciences humaines, là, chez. C'est insensé. Le type, Milner le cite dans l'œuvre claire. Il prétend qu'en linguistique ou dans les sciences humaines, ce n'est pas des maths, parce que les mathématiciens ne reconnaissent pas ces maths comme des mathématiques. Il croit que les mathématiques dépendent de la doxa, de l'opinion des mathématiciens. Il ne fait pas la différence entre le langage, l'écriture, les systèmes d'écriture des mathématiciens et le discours mathématique à une époque ou à une autre. Je ne dis pas que le discours mathématique entre mathématiciens n'existe pas. Il y a même des modes. Il y a même des phénomènes de mode, comme dans tout. Tout discours, comme dans tout groupe humain, comme dans tout lien social. Mais les mathématiciens, leur lien social, il met en avant quelque chose qui est plus important que le lien social lui-même, c'est l'écriture. Bon. Donc ça, par exemple, vous voyez, il y a des mathématiciens qui diraient, bon, ben, c'est tout ce qu'ils peuvent dire de mieux, c'est de dire, ah ben, cette distributivité de la négation sur les deux termes de l'implication, ça ne marche pas comme avec les nombres. C'est pas distributif, c'est pas vraiment distributif. C'est une distributivité à chier. Ils peuvent dire ça, kikine. C'est une distributivité, vous voyez, comme dit Lacan, c'est ça, mais à la gomme, pas aux petits oignons. Hein? Pourquoi ? Ben parce que c'est plus difficile à définir, mais c'est pas sans définition. Regardez, il suffit de dire pour distribuer la négation sur un connecteur d'implication. Il faut le distribuer seulement sur le deuxième terme et changer le connecteur. Alors, et puis le connecteur, pas n'importe lequel. Il faut changer l'implication en conjonction. Non, mais il y a tout à fait. Il y a quelque chose comme ça. Mais c'est linéaire encore. Mais c'est linéaire, vous voyez. Alors, regardez, ça, c'est extrêmement important pour connaître les énoncés catégoriques d'Aristote. La première étape, là. Les quatre énoncés catégoriques d'Aristote, si je vous les écris. Vous voyez comment est-ce qu'ils s'écrivent d'une manière hein? Tous les Grecs, tous les G sont H, sont des hommes. Tous les Grecs sont des hommes. Bon, ça, les livres de philo et de logique de philosophie qui vous disent voilà, Aristote dans l'Organon, il a fait une logique, il a fait une logique formelle, les portes, ça veut dire algébrique, ça veut dire une écriture. Formel, ça veut dire qu'il a mis des lettres à la place des concepts. Le concept de grec est devenu G, et le concept homme est devenu. Le mot homme, c'est devenu un concept et c'est remplacé par une lettre. Et là, quand il pousse le ballon un tout petit peu plus loin, il dit Aristote, il remplace les concepts par une lettre et un trou. Il met des trous à la place des concepts. Pourquoi il dit ça, d'accord ?
Parce qu'on fait un diagramme de Lerman, là, vous voyez ?
Tous les G sont H. C'est ça. Mais Aristote, il ne fait pas ça. C'est Lacan qui dit que Aristote, il met des trous. Mais il n'en était pas à concevoir les trous. Lacan, un rond, c'est un trou. Donc voilà un trou et un autre trou. Bon. Comment ça s'écrit en langage de Frege Perls?
Pas boule. Je vous l'écrirai après comme boule. Ça s'écrit comme ça. Quel que soit x, g de x implique h de x. Hein? Ça, c'est le, vous voyez, c'est entièrement écrit d'une manière mathématique. C'est des mathématiques. Ce n'est pas des mathématiques classiques, c'est des mathématiques qui apparaissent seulement au 19e siècle. Et l'autre crétin, il nous dit, mais non, ce n'est pas des mathématiques, parce que les mathématiciens ne le veulent pas. Il y a des mathématiciens qui ne font pas de logique, hein, vous savez. Ils utilisent la logique qu'ils ont. Ils peuvent même utiliser un peu plus de logique que les autres, mais ils ne sont pas obligés tous de faire de la logique. Enfin, il y en a qui n'étudient pas spécialement même la théorie des ensembles. Ils sont passionnés par leur système d'écriture à eux et leur calcul et ce qu'ils savent faire dans leur système. Bon, donc voilà, tous les G sont H. Bon. Alors, comment est-ce qu'on fait la négation de ça? Pour obtenir ce qu'on sait depuis Aristote, ce qui se retrouve encore dans le Pontosane de scolastique, le diagramme d'Apulée, ce qu'on peut retrouver dans Plotin, on sait que la négation de ça, ça va être un particulier. Hein? La négation de ça, tous les Grecs sont des hommes, il y a quelques Grecs qui ne sont pas des hommes. On va dire comme ça. Quelques Grecs, quelques G ne sont pas H. Vous voyez bien que c'est quoi? Ça s'écrit comment ça? La négation. Hein, si je prends la négation de ça, vous voyez ici, j'écris non. Non. Tous les G sont H, la négation c'est quelques G ne sont pas H. En formule, ça donne quoi? Eh bien, ça donne, il existe des X qui sont non ça. Et la négation de ça, ben, vous avez utilisé ça pour savoir ce que c'est que la négation. La négation de G implique H, c'est quoi? La négation de P implique Q, c'est quoi? C'est G et non H. Voilà. Donc, voilà. Et non H. Oui. L'énoncé particulier négatif, hein, il s'écrit, il existe X, G de X et non H. Alors, c'est pas un ne sont pas des hommes, mais c'est plutôt sont des non-hommes. Hein. La négation, on l'a fait porter, vous voyez, sur le deuxième prédicat. Et, par contre, ce qui est tout à fait surprenant, ce qui est tout à fait nouveau, qui n'existait pas dans le 19e siècle, et aucun philosophe en a tiré les conséquences de ça, parce que c'est un problème ontologique quand même. Regardez, on écrit le verbe être, ce qu'on appelle la copule, le son, le verbe être. Ça s'écrit, quand c'est un universel affirmatif, ça s'écrit une implication. Quand c'est un universel négatif ou un particulier négatif, ça s'écrit avec le « et ». Donc le verbe être, là, il commence à flipper. Vous voyez, il fait des clins d'œil. Il fait comme ça, il va faire des sortes de...
Merci.
Oui, il va...
Hésite.
Une sorte d'hésitation. Hein? Il clignote, on va dire. C'est ça ce que je cherchais, clignote. C'est personne, même Badiou, qui est un génie de l'ontologie, mais n'a pas été écrire quoi que ce soit sur le clignotement du verbe être dans les énoncés catégoriques d'Aristote. Versus, comment il s'appelle, donc, Frege, et c'est la suite de Frege et de Perls. Alors, en algèbre de Boole, ça s'écrit comment ça? En algèbre de Boole, celui-là c'est plus facile d'abord. Celui-là on va l'appeler, regardez, G multiplié par H plus 1. Ça s'appelle G multiplié par H plus 1. H plus 1 c'est la négation de H. Et G multiplié par quelque chose, c'est la conjonction. Eh bien, il en existe. Alors, vous n'avez qu'à mettre ici, devant, vous n'avez qu'à mettre ces différents zéros. Voilà. Vous, voilà, voilà comment il vous l'écrit, la syllogistique d'Aristote. Voilà l'énoncé particulier négatif de Boulle. Et lui, il dit, c'est de l'arithmétique. Donc, Boulle, il préfère l'arithmétique qui ressemble à cette arithmétique-là, à l'anneau de Boulle, un anneau, un groupe et une multiplication, un groupe additif plus une multiplication. Et il y a des logiciens qui préfèrent ça parce que ça ressemble plus à des énoncés dans la langue. Vous voyez ? Ça, ça ressemble plus puisque c'est P et non Q. Vous voyez, c'est bien G et non G, il est non H. Et ça, c'est P impliquant. Donc, vous voyez bien que c'est quelque chose qui oscille entre la langue, la linéarité de la langue parlée, et puis le calcul arithmétique, et on trouve différents moyens, et il y a des moments où ça capitonne, il y a des moments où ça marche bien. L'algèbre de Boulle, ça marche très très bien. C'est une algèbre qu'on n'avait jamais imaginée avant, où on peut tout écrire avec des 0 et des 1. C'est des nombres un peu spéciaux, les nombres qui sont dans l'algèbre de Boulle. Alors, et tous les, la négation de ça, c'est quoi ? Eh bien, c'est que ceci est égal, c'est que le, c'est pas ceci qui est égal à 0. La négation, si, ça va être ceci égal à 0, mais alors, ça, vous allez pouvoir l'écrire comme étant, attendez que je ne dise pas de bêtises, la négation de ça, oui, non, mais parce que, écoutez, Boulle, il n'écrit jamais quelque soit. Quand il veut écrire quelque soit, s'il veut écrire quelque soit, il dit, oui, Boulle, il dit, non, il existe X, il prend la négation de ça pour écrire ça. Non, il existe X, G de X, et non, H de X. Voilà. Ce qui fait que l'énoncé universel pour Boulle, ce sera quoi ? Ce sera G multiplié par H plus 1 égale 0. Voilà. Un universel, c'est une non-existence. Il y a quelque chose de vide. Hein ? Je vous l'ai déjà dit. Lacan le fait remarquer, les Chinois, pour dire tous les hommes sont morts à la guerre, ils disent pas ça, ils disent les hommes sont morts à la guerre sans exception.
Et du coup, c'est égal à zéro, et c'est égal à zéro.
Oui, non mais l'un est la négation de l'autre. Hein. Entre les deux, il y a une négation. Tu vois, il y a une négation, non. Hein. C'est la négation entre ces deux-là, c'est la négation entre ces deux-là. Ici, il y a une négation. D'accord ? L'un est la négation de l'autre. Mais celui-là, on va justement l'écrire. Celui-là, l'universel, dans Boulle, on va l'écrire comme une négation d'existentielle. Boulle, il écrit tous les énoncés catégoriques comme des existences. Ou comme des négations d'existence. D'accord ? Bon. Alors, moi, je m'interroge sur cette façon de faire. Je me dis que. Voilà, ce que j'appelle scout et pas scout, c'est ceux qui voient dans la mathématique que A, B, le béaba, les mathématiques. C'est-à-dire qu'ils veulent rester dans un monde scolaire et qui ne dépasse pas peut-être l'école maternelle ou l'école primaire ou l'enseignement secondaire. Certains vont jusqu'à une première année d'université. Quelles mathématiques on fait ? Voilà ce qu'on sait. Et puis on s'aperçoit que depuis deux siècles, eh ben, ça turbine vachement. On a inventé plein de trucs érotiques, mais c'est pas bien. On vous dit c'est pas bien. Vous voyez, Lacan fait de la topologie, c'est pas bien. Il s'intéresse au nombre d'heures parce qu'il se moque, hein, quand il fait des trucs marrants. Et puis ça même déjà, on se dit on veut pas. Moi je me souviens d'un certificat que j'ai passé. De topologie, où j'étais interrogé justement sur les formules de Weierstrass là, et l'arithmétisation de la limite avec l'epsilon, vous savez, le fait qu'il faut qu'il y ait des emboîtements, que la manière dont on a essayé d'écrire d'une manière arithmétique la notion de limite. X tend vers quelque chose et la fonction f, du coup, tend vers quelque chose. Bon. Et donc, il y a une écriture avec des états, des epsilon, quel que soit état, il existe epsilon, etc. C'est les grands jours, c'est l'analysité 19e siècle. Ça s'appelle l'arithmétisation de l'analyse fonctionnelle. Ce qui a été remplacé par les filtres, par Cartan dans les années 30, grâce à la théorie des ensembles, et dans une topologie, c'est-à-dire quelque chose qui s'appelle les ouverts et les fermés dans un ensemble, qui permet d'écrire la limite d'une manière différente. Mais ce qui faisait plus suer les étudiants, et peut-être les profs aussi, c'était le fait que voilà, il fallait utiliser ce genre de formule. Et moi, quand j'ai passé un oral comme ça, j'étais avec un examinateur, je me souviens bien, c'était un type assez marrant. J'étais pas mal babacool et bon, il c'était sympa, mais il était sympa. Et alors j'ai utilisé la définition de la limite et que j'ai voulu prendre la négation, je lui ai dit que non P implique Q, et c'était la chose que P est non Q. Alors il s'est arrêté, il a posé en studio, il a dit: ah, un étudiant qui sait que la négation de l'implication, c'est une conjonction. Vous voyez où on en est. Bon. Et alors, il m'a donné le certificat tout de suite. Il m'a dit, c'est pas la peine de continuer. Voilà, vous avez votre certificat de topologie. C'était un résultat de logique. Alors, il y a des mecs qui faisaient la queue pour passer le même examen. Ils gueulaient parce qu'ils disaient, mais c'est pas un certificat de logique, c'est un certificat de topologie. Pourquoi vous lui donnez à lui que la logique? Alors, le prof, il a même pas voulu discuter. Mais moi, je m'en foutais. Ça me dérangeait pas de passer un certificat de topologie. C'était intéressant. Mais le problème, c'est que, vous voyez, c'est même c'était pas la maîtrise de maths, ça devait être MP1, MP2, enfin les premières années, vous voyez, avant la licence ou la licence, voilà. Même ça, c'était considéré comme quelque chose de miraculeux. Alors, c'est pas étonnant, si vous avez le sentiment de ne pas connaître tout ça, vous en faites pas, c'est pas grave. Mais le problème intéressant pour nous, c'est quand même de se dire, bon, mais alors, qu'est-ce qui fait quand même qu'il y a des gens qui disent que c'est pas des maths, il y a des gens qui disent que ces maths-là, c'est pas... Vous voyez, et surtout, ne pas se rendre compte que Freud, justement, lui, c'est le contraire. Je vous dis, quand il apprend que, par Brentano qu'il y a Frege qui a parlé, il y a les logiciens ont inventé le caractère de négation, la fonction propositionnelle de Frege, et le canteur d'existence, existentiel avec Peirce, il utilise tout de suite ces trois notions, il les écrit pas, comme on dit, formellement, il les écrit pas algébriquement, il va pas les écrire dans son texte, il va pas faire un texte d'algèbre, d'écriture algébrique, mais il utilise ces trois notions pour montrer que ces trois éléments qui permettent enfin d'écrire la syllogistique d'Aristote d'une manière... qui n'est pas simplement formelle, comme dit Loukasiewicz, mais qui est formelle et formalisée. C'est là que vient le mot formalisation. C'est le passage de ce formel à cette écriture mathématique. C'est Loukasiewicz qui dit ça au début de son syllogistique d'Aristote. Il dit la mathématique moderne a transformé la logique, elle l'a fait passer d'une logique formelle à une logique formalisée.